deuxième temps de notre série consacrée dans la fabrique de l'histoire à l'Antiquité dans tous les sens. Aujourd'hui, le documentaire. Après la vue hier et avant le goût demain, nous allons ce matin nous intéresser à l'ouïe et à la manière dont elle était utilisée dans l'Antiquité, que ce soit en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce ou encore à Rome. Victor Massé de l'Épinay et Renaud Dalmar se sont en effet rendus au Louvre-Lens, le musée où se tient ces temps-ci l'exposition Musique, écho de l'Antiquité, qui s'y tient donc jusqu'au 15 janvier prochain. On y entend bien sûr les sons reconstitués de musique et de chants antiques, mais on y décrit aussi beaucoup d'œuvres dans lesquelles la musique tient sa place et une grande place. Tout cela en compagnie de Nello Ziegler, assyriologue, d'Alexandre Vincent, spécialiste de l'histoire romaine, et de Sybille Emrit, égyptologue et chercheuse au CNRS. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin.
Persépolis, Ninive, Assur, Bagdad, Babylone, Marie, Alexandrie, Le Caire, Memphis, Tanagra, Thèbes, Athènes, Pompéi, Herculanum. Et tout en haut, Louvre-Lens, où nous sommes aujourd'hui, devant une grande carte de tout le monde antique. Avec vous, Alexandre Vincent, bonjour.
Bonjour.
Et vous, Nello Ziegler, bonjour.
Bonjour.
Cette carte est impressionnante, elle nous montre un peu l'ampleur de cette exposition, l'ampleur d'abord géographique. De l'autre côté, nous avons une frise qui nous montre que l'exposition que nous allons voir aujourd'hui au Louvre-Lens, qui s'appelle « Musique, écho de l'Antiquité », couvre presque 4000 ans d'histoire. Nello Ziegler, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez voulu montrer? Peut-être qu'il faut dire qu'il y a 8 commissaires pour cette exposition, vous êtes 2 de ces commissaires. Chacun a une spécialité, que ce soit la Mésopotamie, la Grèce, Rome ou l'Égypte. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer et comment est-ce que vous avez pu répondre à ce défi de faire tenir ensemble toute l'Antiquité, tout le monde antique?
Alors le but était de montrer pour 4 civilisations orientales, notamment celle de la Mésopotamie, l'Égypte ancienne, la Grèce ancienne et Rome ancienne, des spécificités tournant autour de la musique. Nous avons été 8 commissaires pour cette exposition, puisque nous avons vraiment un arc chronologique et géographique très vaste. Ma spécialisation personnelle, c'est la Mésopotamie ancienne, les textes de la Mésopotamie ancienne. Donc le but était de montrer comment fonctionne la musique, ou à quoi sert la musique dans cette civilisation, et comment la civilisation donne les possibilités aux musiciens de survivre, d'exercer leur art, quelle est la création, quelles sont les fonctions de la musique dans l'Antiquité mésopotamienne.
Et ce n'est pas, Alexandre Vincent, une exposition à proprement parler sonore, puisqu'il faut dire que les échos de l'Antiquité ne sont pas très nombreux, on ne sait pas exactement, on n'a pas beaucoup d'idées de ce qu'était véritablement la musique de l'Antiquité, ce qu'on pouvait entendre.
Les échos sont très nombreux, mais ils sont distants, ils sont fragmentaires et ils sont imprécis. Et à partir de là, ce qui a représenté une autre difficulté de l'exposition, c'était de ne montrer aux spectateurs que des réalités sonores qui soient scientifiquement assises dans un discours contemporain, et donc de ne présenter en termes de reconstitution ou de diffusion de signaux sonores que des éléments qui soient appuyés sur une démarche scientifique sérieuse. Et donc, il est vrai que certains spectateurs pourront peut-être être déçus du fait de ne pas être noyés sous des reconstitutions parfois exubérantes ou fantasmées de la musique antique. Mais c'était là une intention de notre part, une volonté de ne montrer que ce qui pouvait l'être. Et autant il est difficile de reconstituer des messages sonores, autant ce que l'on constate dans ces près de 380 œuvres qui sont rassemblées, c'est l'abondance de témoignages iconographiques, de témoignages épigraphiques et même numismatiques qui, eux, se rapportent à la pratique musicale dans les 4 grandes civilisations de l'Antiquité.
Sybille Emery, nous sommes accueillis dans cette exposition du Louvre-Lens par cet air très célèbre de Verdi, les trompettes d'Aïda, dans une version, la version originale, j'ai envie de dire.
L'air qu'on entend est joué sur la trompette qu'a créé Adolphe Sax à la demande de Giuseppe Verdi, qui voulait avoir pour son grand opéra, qui était joué à Paris, à l'opéra en 1880, des trompettes naturelles sur le modèle des trompettes égyptiennes anciennes de l'Antiquité. Et à cette époque, on pensait, grâce à un objet conservé au musée du Louvre, qu'a ramené Champollion lui-même d'Égypte, qu'il s'agissait du vestige archéologique d'une trompette, et cette trompette a servi de modèle à Adolphe Sax. En réalité, beaucoup plus tard, hein, puisque ce sera seulement en 1970, on s'est rendu compte que c'était pas du tout une trompette, que c'était finalement un pied d'autel qui servait à mettre dessus un brûle-parfum. Donc cet air fameux que tout le monde connaît a été créé sur un malentendu complet sur une incompréhension d'un vestige archéologique. Au XIXe siècle, les savants, les artistes sont frappés par les découvertes archéologiques majeures et ça va inspirer l'art énormément. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'accueillir le visiteur par ces stéréotypes, ces images du XIXe et XXe siècle que tout le monde connaît, en particulier le péplum hollywoodien, par exemple. Et aussi Gabriel Fauré qui va être le premier à donner une interprétation des hymnes de Delphes. Les hymnes de Delphes, c'est un moment important dans l'histoire de l'archéologie musicale. En 1893, on découvre une inscription sur le site de Delphes en Grèce avec une notation musicale. C'est la deuxième notation musicale grecque découverte originale au 19e. Et Théodore Reynal, qui est un grand helléniste, va demander à un ami, Gabriel Fauré, d'harmoniser cet air que vous pouvez entendre. Alors l'interprétation est très lointaine par rapport à ce qu'on peut imaginer de l'ère antique, puisque bien sûr c'est une réinterprétation, et surtout Gabriel Fauré avait peur de choquer les oreilles de ses contemporains, et l'ère que vous entendez ressemble beaucoup plus à une musique des salons parisiens du 19e siècle qu'à une musique antique.
Nous entrons à présent dans une salle qui s'appelle l'oreille des dieux. Les dieux, il va en être beaucoup question dans cette exposition sur la musique. Et on va s'approcher avec vous, Nellot Ziegler, d'une tablette. Il y en a beaucoup. D'une tablette qui nous présente un texte qui a 5000 ans à peu près, c'est bien ça?
Peut-être pas 5000 ans, mais au moins 4000. C'est un texte en langue sumérienne qui a été rédigé sur une copie à peu près 19e siècle avant le Christ, donc en écriture cunéiforme. C'est un mythe qui montre que les dieux créent l'homme parce que l'homme doit travailler à la place de divinités inférieures. Et pour célébrer cette superbe invention qui est la création de l'homme, il y a une grande fête. Lors de cette fête, le dieu Ea et son épouse Ninmach, ils boivent un peu trop, ils se lancent un défi. L'épouse Ninmach dit « Je suis aussi capable de créer des êtres humains ». Mais toutes les créatures qu'elle crée ont des défauts. Et le dieu Ea, Enki, qui est un dieu très très bienveillant avec les humains, il donne un destin à chacune de ces créatures un peu ratées de la déesse Ninmach. Et par exemple, le deuxième personnage qui a été créé, et le musicien du roi. Si vous voulez, je peux lire le passage. Comme deuxième personnage, Ninmach créa avec l'agile un homme aveugle, incapable de voir. Ea lui attribua un destin. Il lui attribua l'art de la musique et l'installa sur une place d'honneur devant le roi en tant que grand musicien. Ce mythe est extrêmement intéressant pour nous parce qu'il met l'accent sur ce qui est le plus important pour la civilisation mésopotamienne, c'est la proximité des musiciens avec la cour royale et avec leur pourvoyeur, le roi.
Alexandre Vincent, pendant qu'on évoque ces liens entre la musique et les dieux, nous nous retrouvons maintenant devant un autel de sacrifice, donc pour rendre un culte aux dieux, il y est aussi question de musique.
Absolument, c'est un chef-d'œuvre que nous a prêté le musée du Capitole. Et c'est un autel lié au sacrifice du culte des quartiers à l'époque augustéenne. On a la chance d'avoir une datation très précise pour ce monument, il date de l'an 2. Et ce que nous voyons, ce sont les quatre magistrats qui ont la tête voilée, c'est-à-dire qu'ils ont un pan de leur toge qui est ramené sur l'arrière de leur crâne. Ils sont en train de renverser sur un foyer allumé de l'encens et du vin. C'est les prémices du rite, c'est le début du rite, où il est question d'attirer les dieux, d'attirer l'attention des dieux par les odeurs qui montent pour satisfaire les dieux. Et ce que l'on voit en arrière-plan, mais parfaitement en majesté derrière l'autel, c'est un musicien qui lui aussi a la tête recouverte d'un pan de toge et il souffle dans une double tibia, donc l'équivalent de deux hautbois. Il a les joues gonflées, il est en train de jouer pour aider les sacrifiants. Il s'assure qu'il n'y a pas de son perturbant qui vienne gêner les sacrifiants dans leur rite, qui vienne gêner la réalisation du rite par les gestes ou par les mots qui étaient prononcés par les magistrats.
Vous écrivez dans ce catalogue qui est magnifique que cette musique jouée par ce joueur de tibia pendant le sacrifice a presque une vocation à être du silence. C'est une musique qui crée le silence, d'une certaine façon.
Alors effectivement, elle crée le silentium, disons, pour rester près du texte latin. Et le silentium, pour les Romains, c'est une catégorie du droit et du droit religieux qui conduit à l'absence de vice dans la réalisation des rites. Et effectivement, ce à quoi sert le musicien, c'est à créer le silence, ce qui peut être paradoxal pour nous, puisqu'il souffle probablement très fort dans un instrument que l'on peut entendre à d'autres endroits de l'exposition, avec un son assez puissant. Et en soufflant fort, en créant cette sorte de paravent sonore, il crée du silence. Une forme de paradoxe pour nous contemporains, mais tout à fait logique et naturelle pour les Romains.
C'est une reconstitution qui est proposée par Stefan Hagel, qui est helléniste à l'Académie de Vienne et qui est le grand spécialiste des oloïs grecs. Les oloïs qu'on entend sont ceux du musée du Louvre. C'est une copie qu'il a réalisée lui-même à partir des originaux. C'est très difficile de reproduire un instrument antique et bien entendu il y a toujours une interprétation. Donc lui s'est vraiment spécialisé dans une mesure extrêmement fine de ces objets. Et leur étude permet d'avoir une idée aussi de l'embouchure, parce que pour les oloïs, vous avez une embouchure double qui est essentielle pour produire ce son.
Qu'est-ce que c'est qu'un oloï? Comment ça se présente?
En fait, ce sont des hautbois, par rapport à la famille des instruments de musique. Donc ce sont des instruments à hanches doubles et qui se jouaient avec deux tuyaux. Les trous sont espacés de manière différente et vous avez d'un côté une note tenue et de l'autre côté la mélodie qui est jouée. Il n'y a pas de vestiges archéologiques suffisamment bien conservé, c'est vraiment extrêmement fragmentaire, donc c'est à partir de l'iconographie qu'il propose ces reconstitutions. Dans l'ensemble des airs que vous entendez là, c'est une improvisation de sa part. Il ne joue pas une partition grecque, c'est une improvisation sur ces objets, et il faut dire qu'il a un certain talent.
Et nous continuons à avancer dans cette exposition du Louvre-Lens et nous approchons d'une nouvelle salle, je dis salle, mais il s'agit plus exactement de tambours. Il y a 16 grands tambours dans cette exposition. Et là, nous nous trouvons à l'entrée du 7e tambour qui s'appelle « Famille royale et culte divin ». Avec vous, Nelle Ziegler, la place du roi dans cette exposition est aussi importante. Et là, vous avez voulu nous montrer une tablette, encore une tablette cunéiforme. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci? C'est l'hymne de Shulgi. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Shulgi?
Shulgi est le roi le plus fameux en rapport avec la musique, puisque c'est le seul roi qui se vante d'être un musicien parfait. Il a été roi de la ville d'Ur au XXIe siècle avant le Christ et il a des inscriptions de lui qui montrent que c'est pas seulement un roi qui a fait des avancées extraordinaires, mais aussi un personnage extraordinaire, un grand sportif, un grand mathématicien, un homme qui sait lire et écrire et, entre autres aussi, qui domine tout ce qui concerne la musique. Et donc, il a écrit plusieurs hymnes, mais un particulièrement, qui dit « Moi, Shulgi, roi d'Ur, je me suis aussi consacré à la musique. Rien n'est trop complexe pour moi. Je connais les chants accompagnés de l'instrument tigit, les chants adab, en largeur et en profondeur, perfection de la musique. Quand je fixe les frettes du luth qui transporte le cœur, je ne brise jamais son manche. J'ai étudié les règles pour augmenter et diminuer ses intervalles. Je connais l'accord mélodieux de la lyre gouache à discorde. Je suis familière du Saesh et sais comment frapper sa caisse de résonance. Je peux prendre en main l'instrument myritum qui a une passure dans les textes. Je connais le doigté de l'instrument algar et de l'instrument à cordes sabitum, création royale. De même, je peux tirer des sons de l'instrument ursababitum, du khachar, du zannaru, du urgalou et du dimlamagura. Les mots que je n'ai pas su traduire, les noms d'instruments, les différents types de musique sont des mots que nous sommes en train d'identifier lentement avec des recherches très très poussées et il y a beaucoup de débats, qu'est-ce qui est quoi, etc. Mais pour l'instant, nous essayons déjà de distinguer qu'est-ce qui est un instrument à cordes. Si c'est un instrument à cordes, est-ce que c'est une lyre ou une harpe? Est-ce que c'est un instrument à percussion? Est-ce que c'est un instrument autre? Et donc, ça sont vraiment des recherches que nous devons mener en général grâce à des éléments mentionnés dans les textes. Donc nous avons un grand problème, nous avons une iconographie très riche, mais pas les noms des instruments marqués à côté, sauf pour un tambour à cresson dont nous savons avec assurance quelle est l'identification.
Alexandre Vincent, cette prééminence du roi dans la société musicale qu'on a dans ces sociétés de Mésopotamie, c'est une des grandes différences avec les sociétés grecques ou romaines dont vous êtes spécialiste. Le roi, ben, il n'y en a pas toujours d'abord, mais surtout les musiciens, c'est quelque chose de beaucoup plus peut-être répandu, qui répond à d'autres codes qu'une éducation royale en tout cas.
Effectivement, en tout cas dans le parcours de l'exposition, c'est un des rares endroits où nous avons souhaité distinguer d'un côté les mondes orientaux, incluant donc l'Égypte et la Mésopotamie, et de l'autre côté le monde gréco-romain, puisque les systèmes politiques font qu'il y a des rapports très différents. Le tambour suivant, qui est consacré à la Grèce et à la démocratie en Grèce, au rôle de la musique dans l'Athènes démocratique particulièrement, montre un rapport très différent.
Et nous sommes dans ce tambour avec vous, Alexandre Vincent, devant une série de vases et de coupes noires à figure rouge qu'on connaît bien. Qu'est-ce qu'elles nous montrent justement de l'organisation alors qui existait entre les musiciens dans le monde gréco-romain ?
L'iconographie qui est ici développée montre combien la pratique musicale accompagne le citoyen grec durant toute sa vie et combien elle fait même partie du développement de l'homme en tant que citoyen. La paideia, c'est-à-dire la bonne éducation, consiste à apprendre aux jeunes à jouer d'un instrument, notamment pour qu'ils puissent par la suite en jouer au banquet, dans son grand moment de sociabilité et de vie collective qu'est le banquet en Grèce. Et un certain nombre de vases qui sont présentés ici montrent des musiciens au banquet, de ces instrumentistes qui participent à la récitation des poèmes qui animent la vie collective. Puis il y a une autre grande thématique qui est représentée dans ce tambour, c'est celle des concours. Là encore, une des grandes spécificités de cette culture agonistique des cités grecques qui reviennent régulièrement et qui mettent en scène des musiciens professionnels qui viennent s'affronter pour la gloire essentiellement, que ce soit au jeu de l'holos ou plus mieux encore au jeu de la cithare ou de la cithare et du chant.
Ces musiciens professionnels, ce sont des citoyens comme les autres, ce sont des citoyens qui ont une certaine dignité ou au contraire, ce sont des gens qu'on pourrait dire d'une catégorie sociale plus modeste.
Alors, toutes les réponses sont bonnes, à savoir que les musiciens des concours sont des musiciens, des individus qui sont extrêmement honorés. Et vous avez, en opposé par rapport au vase, un long texte épigraphique, une longue inscription pour un musicien et qui montre les honneurs qu'il a pu recevoir. Donc les musiciens qui faisaient la totalité des parcours, des concours, eux, encore une fois, recevaient parfois des citoyennetés d'honneur, par exemple, recevaient de l'argent, étaient honorés dans leur cité. En revanche, et là, plus encore peut-être dans le monde romain, on voit des musiciens se situer à toutes les strates sociales, à toutes les échelles de la société. Cela peut être des esclaves qui appartiennent à la famille, la familia servile des grandes familles. Cela peut être des individus qui sont libres et qui choisissent le métier de musicien parce qu'il leur permet d'exercer un artisanat un peu comme un autre, pourrait-on dire. Ils ont une capacité technique qui est en l'occurrence la maîtrise d'un instrument et qu'ils mettent au service d'autres personnes. Et puis il y a des individus qui, par exemple, quand ils se mettent au service de la cité, reçoivent une forme de rétribution symbolique par le service qu'ils offrent à la collectivité.
Eh bien, nous allons quitter ce tambour pour continuer dans cette exposition du Louvre-Lens, musique, écho de l'Antiquité. Et nous entrons dans le tambour suivant consacré à la guerre, avec quelque chose qui attire immédiatement l'œil. Alexandre Vincent, c'est cette reproduction d'une partie de la colonne Trajan.
Effectivement, le musée de Saint-Germain-en-Laye nous a prêté la galvanoplastie que Napoléon III a fait réaliser de cette colonne Trajan, qui évidemment, elle, est restée à Rome. Et sur cette scène, nous voyons en plein centre deux musiciens, deux cornichines, de joueurs de cornus, c'est-à-dire une grande trompe enroulée autour de l'individu qui les porte. Ces deux musiciens sont à proximité de l'empereur, Trajan, qui est en train de recevoir la reddition d'un prisonnier d'Asse. Et cette proximité de l'empereur avec les musiciens, ou plutôt des musiciens avec l'empereur, est assez représentative du rôle qu'avaient les musiciens dans les troupes romaines. Ils étaient responsables de la transmission des ordres qui était donné par l'empereur quand il était présent ou par les généraux, il les transmettait de manière acoustique par des signaux qu'ils jouaient, eux et d'autres musiciens, notamment les tubiquines, joueurs de grandes trompes droites. On les voit associés sur ce fragment de la colonne Trajan à des porteurs d'enseignes qui, eux, transmettaient les ordres eux aussi, mais de manière visuelle. On a donc la représentation sur ces pièces qui sont présentées ici à Lens de cette charnière tactique de la répartition des ordres au sein du corps de troupes. Alors, répartition qui se faisait aussi bien sur le champ de bataille, mais les troupes romaines n'étaient finalement qu'assez peu souvent en guerre. Dans la vie des camps, eh bien, les musiciens savaient à relayer les ordres de la vie quotidienne, les réveils, les appels sur les convocations aux assemblées, etc., etc.
Est-ce qu'on a une idée des codes qui étaient utilisés à cette époque par les musiciens et par les porteurs d'enseignes? Est-ce qu'on sait comment les messages se transmettaient, ou on sait que les messages existaient mais on serait incapable de les reconstituer?
Le seul exemple que l'on puisse avoir, en tirant vraiment très très loin les sources, c'est un fragment d'un poète qui s'appelle Ennius, qui dit « Alors la tuba émit son terrible taratantara ». Et il y aurait là une sorte de fragment préservé peut-être de ces signaux. C'est tout ce qu'on a.
Et alors, quand on est entré dans ce tambour, j'ai dit que cette reproduction, cette galvanoplastie de la colonne Trajan attirait immédiatement l'œil. Je l'ai dit de façon un peu provocante, parce que vous m'avez dit que vous vouliez surtout mettre l'accent sur une stèle qui est juste à côté, devant laquelle, me dites-vous, les gens passent sans s'arrêter. Et vous voulez insister sur cette stèle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle est, d'où elle vient, pourquoi elle est importante?
Je ne peux pas en vouloir aux spectateurs, évidemment. On leur met d'un côté la colonne Trajan, de l'autre côté un texte un peu austère, à premier regard, martelé, très serré. Et pourtant, on a là une inscription magnifique qui vient de l'Algérie actuelle, de Lambèze, qui était le camp d'une légion particulière, la 3e Légion Auguste. Et le texte que nous avons là est un texte, là encore, très précisément daté. Ça date de 203 de notre ère. Et il s'agit du texte fondateur de l'association des joueurs de cornous de la 3e Légion Auguste. Et nous avons non seulement le règlement de l'association professionnelle. Pour rentrer dans l'association, il faut payer 750 deniers. Quand on quittera l'association, si l'on la quitte en étant mort, les héritiers auront telle somme. Si on la quitte en étant sur le même grade, on en retirera telle somme. Si on a une promotion, alors on retirera telle somme, etc. Ce qui est intéressant, c'est non seulement ce règlement, mais aussi la partie centrale, la moins bien préservée peut-être, la moins facilement lisible, qui nous délivre le nom de 36 musiciens. Et l'on sait donc qu'en 203 de notre ère, à Lambèse, dans une légion qui, rappelons-le, devait compter entre 4500 ou 5000 hommes, eh bien, il y avait 36 de ces instrumentistes. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'à partir de là, eh bien, des générations et des générations d'historiens spécialistes de l'armée ont cherché à savoir comment répartir ces 36 musiciens. Est-ce qu'il y en avait un par cohorte, deux par cohorte, trois par cohorte, etc. Et en tout cas, on a les noms de ces individus, on a le règlement, on a la dédicace qu'ils font à l'empereur qui était peut-être venu dans le camp même et ce qui avait donné l'occasion à ces musiciens de se regrouper pour la première fois.
Il faudrait s'approcher un peu de cette grande stèle blanche fendue en deux par le milieu pour pouvoir peut-être rendre honneur à quelques-uns de ces noms. On arrive quand même à en lire quelques-uns.
Ah, on les lit bien, effectivement, on lit bien leurs noms. Caius Iulius Felix, par exemple, ou Quintus Vibius Felix, Caius Iulius Tercens, Caius Iulius Africanus. Voilà, il y en a 36 comme ça et je suis très heureux qu'on parle d'eux aujourd'hui.
Qu'on entend actuellement, Sibylle et Maurice, ce sont les cornues de Pompéi. Les cornues sont ces sortes de grandes trompettes courbes qu'on porte autour du coude et de l'épaule. Mais ce sont des cornues virtuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un instrument virtuel ?
5 cornues ont été découvertes sur le site de Pompéi au XIXe siècle et ont été largement restaurées depuis. Donc il y a eu tout un travail assez important dans les archives du musée archéologique de Naples, déjà pour essayer de comprendre chacun de ces instruments. L'intérêt d'une copie virtuelle qui a été réalisée par l'IRCAM grâce au logiciel Modalis, c'est que vous pouvez revenir dans le logiciel, apporter des nouvelles informations. Comme vous l'avez dit, ce sont des instruments très grands qui mesurent plus de 3 mètres. C'est difficile de demander à un bronzier de nous faire plusieurs cornues pour essayer de... ce qui nous intéresse, c'est de tester les capacités acoustiques et sonores de l'objet. Et grâce à l'ensemble des informations qui ont été rassemblées sur ces objets qui sont incomplets, vous pouvez en voir un qui est extraordinaire dans l'exposition que nous a prêté Naples, eh bien, l'IRCAM a pu proposer une reconstitution virtuelle et est capable de faire sonner et est capable de donner donc une idée de la sonorité, de la capacité acoustique et sonore de cet instrument. On a l'habitude dans notre culture actuelle de l'image 3D au cinéma, on a moins connaissance du son 3D qui peut être totalement généré par des logiciels d'ordinateur en fonction des caractéristiques acoustiques qu'on explique en fait. C'est pour ça que c'est un logiciel qui a été mis en place vraiment par l'IRCAM et qui permet d'avoir idée par exemple de la taille de l'embouchure et quel va être l'impact des lèvres quand ça va toucher cette embouchure et quel son ça va provoquer. Il ne faut pas croire que c'est facile de jouer d'un cornu virtuel, ça demande aussi une certaine virtuosité. Ce sont des trompettes romaines qui étaient jouées à la fois dans l'arène, mais aussi à l'intérieur de la cité, voire sur les champs de bataille. Et c'était l'idée de connaître un peu quelles étaient leurs portées sonores. On ne sait pas ce qui était joué sur ces instruments puisqu'on n'a pas de partition. Et donc les sons que vous entendez, c'est une interprétation encore une fois. Ce sont des musiques qui ont disparu, qui sont mortes, ne sont plus des traditions vivantes. Mais néanmoins, en tant que chercheur, on essaye de comprendre la force de ces objets en fait et qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur ces cultures anciennes.
Il y a une question qu'on n'a pas encore abordée dans cette exposition et qui est le sujet de ce nouveau tambour, c'est la question de la transmission et en particulier de la notation musicale. Les Nello Ziegler, nous sommes à présent devant une série de petites tablettes cunéiformes dont vous êtes spécialiste et qui nous présentent sans doute un des plus vieux modèles de notation musicale, c'est bien ça ?
Oui, à peu près. Donc la transmission de la musique se fait de manière orale dans toutes les civilisations. Les instrumentistes avaient des élèves qui étaient assis à côté d'eux et ils leur enseignaient leur art avec l'exemple et avec un vocabulaire spécialisé que nous connaissons par les textes. Mais il y a aussi la possibilité de noter, en effet, des mélodies. Et ici, dans cette salle, nous voyons un exemple extraordinaire qui date du 14e siècle avant le Christ. Et c'est des tablettes qui ont été trouvées dans la ville portuaire proche de la Méditerranée, en Syrie actuelle, d'Ougarit. C'est des tablettes, on a trouvé beaucoup d'exemples, mais une tablette est entière. Elle contient le texte d'un hymne en langue ourite, une langue étrangère pour les habitants d'Ougarit. Elle est séparée en deux parties par un long trait, qu'on voit très bien de loin, même si on ne lit pas le cunéiforme. Et au-dessous de ce double trait, nous avons des indications qui sont musicales, ce qui n'a pas été compris tout de suite lorsque le texte a été édité, mais par les recherches postérieures, on a pu s'en rendre compte. Donc ce n'est pas des signes spéciaux, ce n'est pas comme nos notes ou pour les Grecs des signes qui s'ajoutent, mais c'est vraiment des mots qui désignent tous ces éléments. On dit aussi dans quel mode ça devait être joué, donc c'est comme dans notre système, et on suppose même que c'est assez proche de notre système. Il y avait différents modes musicaux et pouvait donc indiquer tout ça, et notre travail de chercheur est de comprendre. Le problème est que nous n'avons pas beaucoup de textes, et donc il y avait des longues recherches qui étaient nécessaires pour trouver la mélodie qui était vraiment jouée, mais on suppose que ce qui est actuellement l'état de la recherche est relativement proche de ce qui était joué à l'époque, et il y a la possibilité d'entendre trois exemples de reconstitution. Deux accompagnés d'instruments et un troisième sans à la voix seule. Kudurnita shakila tsili shipri Umaru hatuari Umaru hatuari
Cette hymne d'Ougari, Sibyl Emery, c'est donc la plus vieille chanson du monde.
Actuellement connue, ça ne veut pas dire que peut-être qu'on trouvera une autre tablette plus ancienne. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que dès le deuxième millénaire, dans l'Orient ancien, il existe un système musical qui est partagé dans tout l'Orient ancien, puisqu'on a des attestations aussi bien au Ougarit, où a été trouvée cette tablette, mais aussi en Babylonie, par exemple. Ici, le chanteur qui a fait cet enregistrement spécialement pour l'exposition a choisi une interprétation uniquement avec la voix, donc la manière la moins interprétative possible, mais évidemment, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui donne la répétition de cette prière, qui est une prière d'une femme pour pouvoir avoir un enfant.
Dans les tombeaux, on pouvait déposer des objets qui sont en lien avec la musique. Par exemple, des figurines de musiciens, d'instruments, d'éléments. Et ça vaut pour toutes les civilisations, la Mésopotamie, l'Égypte et la Grèce. Et là, vous avez un exemple superbe d'un petit orchestre d'Égine en Grèce, exposé dans cette exposition.
Il y a 6 figurines de différentes tailles. La plus grande fait 20 cm, la plus petite en fait 10.
C'est en effet tout un orchestre qui joue d'instruments divers et avec des positions assez vivantes.
Et ça a été retrouvé dans une seule tombe.
Oui.
Et Alexandre Vincent, à côté de cette famille de tout petits musiciens, on a une pièce beaucoup plus imposante qui est un sarcophage de pierre, un tombeau.
C'est effectivement un petit peu plus massif avec le sarcophage de Julia Tirania qui fait quasiment 2,20 m de longueur, un beau sarcophage en calcaire qui a été découvert à côté d'Arles. Et c'est un sarcophage qui est absolument exceptionnel à plusieurs titres, d'une part par sa qualité, et puis surtout parce qu'il a une représentation, un ensemble d'instruments de musique qui est d'excellente facture et qui présente un regroupement d'instruments pour le moins étonnant. On a sur la partie droite une cithare avec un plectre pour frapper les cordes, on a un luth. Au centre, le chant épigraphique, le texte de l'inscription qui nous apprend que ce sarcophage contenait le corps de Iulia Tirrhania, qui est morte à 20 ans et quelques mois et dont on dit qu'elle était une femme exceptionnelle par ses qualités et par sa vertu, sa discipline de vie. Et puis, sur la gauche, il y a deux autres instruments de musique, un orgue hydraulique, et puis une syrinx, donc une flûte de Pan accrochée, et dessous un arbre et un mouton. Et vous placez tout cela ensemble et vous avez une fort belle énigme iconographique qu'à ma connaissance personne n'a encore percée. Pourquoi juxtaposer cette sorte de nature morte aux instruments, d'instruments qui sont en rapport, qui peuvent être en rapport avec l'éducation d'une jeune fille, et puis l'orgue, la flûte de Pan, qui nous attire peut-être du côté des cultes à mystère, mais rien n'est sûr du tout. Donc une vraie énigme encore à percer, qui sera peut-être mise à jour par des spectateurs du Louvre-Lens.
Et avec un instrument quand même qui nous étonne un peu plus, c'est l'orgue. Un orgue hydraulique, c'est bien ça ?
Un orgue hydraulique, oui. L'orgue est inventé à Alexandrie, qui a un grand succès dans le bassin méditerranéen dans son ensemble, qui se diffuse au 1er siècle avant, 1er siècle après, 2e, 3e, et que l'on retrouve jusque dans les lointaines provinces de Germanie. L'orgue que l'on voit apparaître, notamment sur des mosaïques, en association avec les combats, et notamment les combats de gladiateurs, que l'on voit parfois joué par des femmes, il est vrai, mais a priori pas des femmes qui sont du statut social de Iulia Tirrhania. L'orgue hydraulique, parce qu'il repose sur un système d'écoulement d'eau et de soufflet, et qui sont animés par des esclaves qui là ne sont pas représentés, ou des musiciens, des adjuvants de la musique, qui ne sont pas représentés sur le sarcophage de Iulia Tirrhania.
Mais qui soufflent dedans ?
Non, qui actionnent des soufflets avec des bâtons qui font fonctionner des pompes sur le côté.
Ce son que l'on vient d'entendre, Sibylle Emery, c'est une cymbale égyptienne, c'est bien cela ?
C'est une cymbale qui a été trouvée en Égypte. Ça ne veut pas dire qu'elle est de culture pharaonique. Au contraire, la cymbale est un instrument qui est attesté dès le 2e millénaire dans tout l'Orient ancien, mais qui a été introduit très tardivement en Égypte à l'époque hellénistique. Donc elle est certainement plus de culture grecque que de culture égyptienne ancienne.
Mais en tout cas, c'est l'instrument antique qui sonne, on la réécoute.
Oui, c'est le côté extraordinaire. Hein. En Égypte, vous avez des objets qui sont suffisamment bien conservés, qui ne sont pas corrodés au point qu'on peut les faire sonner, surtout quand ce sont des objets en bronze. Vous avez également dans l'exposition le gong qui a été trouvé Herculanum, qui est tout à fait possible encore aujourd'hui de le faire sonner, puisqu'il est le bronze n'est pas corrodé, le métal n'est pas corrodé, l'objet est en parfait état. Évidemment, il ne faut pas s'amuser à le faire sonner 150 fois, on est d'accord, mais ça nous permet d'accéder à un son direct tel qu'il était entendu, en tous les cas, dans l'Antiquité. Le sistre, c'est avant tout un objet cultuel qui est lié au culte de la déesse Hathor en Égypte et qui est une sorte de hochet qu'on utilise aujourd'hui pour nos bébés et qui avait justement pour fonction d'apaiser la déesse par le bruit fait par cette sorte de hochet en métal qui est donc fait avec un manche. Au-dessus du manche, vous avez un arceau, vous avez des sortes de petites baguettes en métal qui traversent cet arceau. Si le sistre est de culture pharaonique, vous aurez dessus des petites sonailles. S'il est de culture romaine, ces sonailles disparaissent. On n'a plus que ces petites lamelles en métal qui viennent cogner chaque côté de l'arceau et qui produisent ce petit son hein, qui, pour nous, n'a rien de sensationnel. On ne trouvait pas très mélodique, mais qui était pourtant essentiel puisque cet instrument s'est diffusé dans toute la Méditerranée ancienne avec les cultes isiaques.
Comment jouait-on de la musique dans l'Antiquité ? Comment utilisait-on les instruments dont on a retrouvé les vestiges ? ou les traces iconographiques. C'est le sujet de ce 13e tambour dans cette exposition du Louvre-Lens, consacré donc à l'interprétation de la musique. Et Alexandre Vincent, il y a là sur notre gauche deux pièces exceptionnelles que vous allez nous présenter, qui nous montrent des scènes de musique domestique. D'abord, c'est peut-être une des choses qu'on n'a pas encore évoquées, c'est que la musique est aussi quelque chose qui se joue dans les maisons, dans les intérieurs, peut-être pas dans toutes les couches de la société. Mais là, on voit des femmes qui jouent de la musique manifestement chez elles ou dans une demeure.
Effectivement, si vous êtes quelqu'un de bien placé dans la société romaine, si vous êtes un aristocrate ou quelqu'un de riche, eh bien, il va de soi que vous avez dans votre famille servile des instrumentistes qui vont pouvoir jouer lors de vos réceptions. Et si jamais vous n'en possédez pas en propre, eh bien, dans ce cas, vous en louerez pour les différentes prestations que vous voudrez bien faire réaliser chez vous. Les deux peintures qui sont accrochées ici dans ce tambour sont des merveilles qui ont été découvertes à Pompéi, à Herculanum, et que le musée archéologique de Naples nous a fait l'honneur de nous prêter. Vous avez d'un côté un trio avec trois personnes, évidemment, une femme et deux hommes qui sont assis et qui jouent, qui de la sitar, qui de l'holos double, et qui s'apprêtent à chanter et qui sont écoutés par deux individus en arrière-plan. Et puis, sur la célébrissime peinture que nous avons placée à côté de celle-ci, il y a une scène d'accord d'instruments avec une femme qui porte une grande tunique, une grande toge blanche, qui est en train d'accorder sa sitar à l'aide d'un autre instrument posé sur le lit sur lequel elle-même est assise. Trois femmes sont en train d'assister à cette scène d'accord, et probablement que la musicienne, peut-être une professionnelle, mais nous n'avons aucune certitude sur ce point, s'apprêtait à réaliser sa prestation, à monter sur scène ou à participer à un divertissement en contexte privé. Cette peinture, qui a été découverte à la fin du XVIIIe siècle, a connu un succès immédiat et on la trouve représentée notamment dans le palais des Bourbons à Capodimonte à Naples, où elle est à plusieurs reprises repeinte et répliquée.
Il y a des petits détails qui attirent l'œil sur la façon d'interpréter ces instruments. Cette musicienne, sur cette peinture célébrissime, a les pieds posés sur une sorte de petit marchepied ou de petite table. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça a à voir avec son activité de musicienne ?
Peut-être peut-on déduire de ce marchepied qu'elle était une professionnelle de la musique et non pas une femme bien éduquée qui s'apprêtait à jouer de la musique. Peut-être, car effectivement, le marchepied se retrouve en général associé à des professionnels. Mais vous aurez compris dans la répétition de mon conditionnel que c'est là une hypothèse.
Et sur la première de ces peintures, il y a un joueur d'Oloï, c'est bien ça,
oui.
Au milieu. On le reconnaît à ses joues gonflées, ça on le voit souvent. Mais il a le teint très rouge par ailleurs, mais il semble avoir un bâillon sur la bouche. Qu'est-ce que c'est que...
Effectivement, il est représenté en plein effort, il est quasiment rubicon tellement il souffle fort, ses joues sont gonflées, et cela nous montre toute la difficulté du jeu de ces instruments à hanche double qui nécessitent une grande technique, qui sont très très délicats en termes de jeu. Et on sait que Minerve, qui a inventé, pour les Romains dans la reprise moderne, qui a inventé cet instrument, la tibia ou le los grec, voyant le reflet de son visage déformé dans une flaque d'eau, l'a jeté. Car elle ne pouvait pas se présenter aussi laide. Cet instrumentiste que nous avons ici, il porte ce que l'on appelle une forbeia en grec ou un capistrum en latin. C'est une lanière qui permet de serrer les joues, qui permet en réalité à la colonne d'air d'être la plus droite et la plus performante possible. C'est une technique que l'on retrouve sur d'autres vestiges qui sont exposés ici et même sur des plus anciens, sur des vestiges mésopotamiens, me semble-t-il, on a cette lanière qui là encore enserre les joueurs de hautbois.
Et alors, en face de ces deux peintures, Nelle Ziegler, nous avons des petites figurines qui nous montrent des femmes. Est-ce que ce sont toutes des femmes ?
Non, c'est des hommes.
Ce sont des hommes. Alors.
Donc, en effet, nous voyons ici trois plaquettes en argile. Les plaquettes en argile sont des objets qui sont reproduits en masse. Donc, on a plusieurs exemples de ces mêmes estampillages. C'est des objets très peu chers, donc on le trouve dans différents endroits, mais ce qui est extraordinaire, et c'est pourquoi on l'a exposé ici, c'est la précision de ces objets. Donc nous voyons trois joueurs de harpe, deux parmi eux portent des vêtements assez élégants, et on peut supposer qu'il s'agit ici des musiciens du culte, qui sont assis sur des petites chaises, et un troisième qui porte un pagne qui marche. Ce qui est intéressant, c'est de voir la position dans laquelle ils tiennent ces instruments, leurs instruments. La façon de jouer, deux exemples montrent l'utilisation du plectre, alors que le troisième montre la main qui est en action.
Le plectre, c'est une sorte de petite baguette de bois.
Comme pour le jeu du guitare, donc cet objet qui permet de entonner sur des cordes. Donc ces trois objets datent du 19e siècle avant le Christ, 18e siècle avant le Christ à peu près, et montrent donc vraiment la musique et l'instrumentiste, et aussi, à cause des vêtements qu'ils portent, le rang assez élevé de ces hommes. Ce qui est très beau, c'est de mettre ça en regard avec un ostracon égyptien.
Qu'est-ce que c'est qu'un ostracon?
Donc c'est un tesson sur lequel on peint. C'est un objet plus ou moins détritus qu'on va jeter, mais sur lequel on pourra marquer soit des textes, soit des dessins. Ici, c'est un très joli dessin, très fin, qui montre un harpiste en train de jouer son instrument. Et ce dessin est extraordinaire parce qu'il montre vraiment l'homme tel qu'il était. Il est voûté, son corps est courbé par son action répétée et tout son être donc imprègne son statut de musicien, sa vie et sa longue vie, puisqu'il semble être âgé, de musicien.
Cette exposition se termine, comme elle a commencé, par une grande carte. Celle-ci nous présente les instruments de musique du monde antique et les itinéraires qu'ils ont faits entre l'Orient, l'Italie, la Gaule, même le nord de l'Allemagne, l'Égypte ou l'Afrique du Nord, la Grèce. C'est quelque chose que vous avez voulu montrer, quelque chose qui est important de montrer que tous ces instruments ont voyagé, qu'on ne sait pas toujours où ils sont nés, mais qu'on les retrouve à plusieurs endroits, différentes époques. Nelle Ziegler.
On a voulu montrer aussi comment ces instruments ont pu se diffuser à travers tout cet espace autour de la Méditerranée. Et il y a différentes manières. Bien sûr, il y a des musiciens qui voyagent. Nous voyons pour l'époque grecque tous ces musiciens qui voyagent d'un concours à l'autre, qui voyagent même jusqu'en Égypte hellénistique. Nous voyons ici des exemples des musiciens qui sont certainement d'origine étrangère. Et donc, cette façon pacifique de diffuser la musique. Il y a aussi d'autres moyens de transporter des techniques, des jeux, des instruments d'un endroit à l'autre, c'est par exemple par la guerre, par les prisonniers de guerre. Nous avons un très beau exemple, c'est une mosaïque qui vient d'un palais iranien, le palais du roi Bishapur, qui a donc orné son palais avec une technique qui n'était absolument pas d'usage dans la région où ça a été trouvé, donc une mosaïque à la romaine, qui montre une musicienne dénudée qui est assise à même le sol, sans doute prisonnière, qui joue un instrument qui n'était pas d'habitude joué dans cette région, une harpe arquée, représentée par une technique qui n'était pas d'usage dans cette région. Mais nous avons aussi d'autres moyens dans lesquels les instruments se diffusent à travers l'espace, par exemple le culte. Et un exemple très intéressant est le culte d'Isis, le culte isiaque, qui a eu un succès énorme dans tout l'Empire romain. Et nous avons montré à l'exemple des sistres que cet instrument s'est diffusé partout autour de la Méditerranée.
Merci beaucoup Nelle Ziegler, merci à vous Alexandre Vincent et merci Sybille Emmerit. Je rappelle que cette exposition « Musique, écho de l'Antiquité » est visible ici au Louvre-Lens jusqu'au 15 janvier 2018 avant de partir à Barcelone puis à Madrid.
Une balade documentaire signée Victor Massé de L'Épinay. La prise de son était assurée par Hélène Langlois, le mixage par Claire Levasseur et la réalisation par Renaud Dalmar. Et cette semaine n'est pas une semaine tout à fait normale pour la Fabrique de l'Histoire, puisque jeudi, nous vous proposons, pour ceux qui sont parisiens, ceux et celles qui sont parisiens, de nous retrouver entre 18h et 20h à la Bibliothèque Nationale de France, à l'occasion de l'enregistrement d'une émission de la Fabrique de l'Histoire, ou plutôt une petite dizaine d'émissions de la Fabrique de l'Histoire, puisque vous le savez, tous les vendredis, nous vous proposons en fin d'émission, avec le site de la BNF qui s'appelle Retro News et qui est chargé de populariser les archives de presse de la Bibliothèque Nationale de France, nous vous proposons une séquence qui s'appelle « C'était à la une ». Eh bien, nous enregistrons une quinzaine de « C'était à la une » jeudi prochain, le 23, donc entre 18 et 20 heures à la Bibliothèque Nationale de France dans le 13e arrondissement de Paris. Nous y parlerons à la fois de la réception de Freud en France, de Surcouf et de ses exploits, de Bonaparte et de ses exploits militaires, mais aussi de l'exposition coloniale de 1931, des Trois Glorieuses, de la Commune, telles qu'elles ont été racontées par la presse de l'époque, ou encore de la catastrophe du bazar de la Charité en 1897. Nous vous donnons donc rendez-vous jeudi entre 18 et 20 heures et l'entrée est libre dans la mesure des places disponibles. Demain, nous continuons notre série sur l'Antiquité dans tous les sens et après avoir exploré le sens de la vue avec les statuettes et les iconographies de l'Antiquité, c'était hier et donc aujourd'hui le sens de l'ouïe. Demain, nous vous parlerons du sens du goût avec Dimitri Tillois des banquets dans l'Antiquité, en particulier dans l'Antiquité romaine. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe de la Fabrique de l'Histoire, sur le réseau Facebook ou encore nous suivre sur Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.